Entretien. Jean-Claude Vernier, une vie de passion et d'utopie. L'étudiant boulimique. Par Jean-Louis Vinet.
Oui, je l'ai déjà dit, Jean-Claude Vernier est kaléidoscopique. Et ce n'est pas qu'une image. À qui avons-nous affaire ? Un étudiant qui, fils d'instituteur, entre à l'école centrale, qui réussit l'écrit de Polytechnique mais boude l'oral, fait simultanément des études d'architecte, enseigne aux Beaux-Arts et en même temps s'engage, milite, occupe. Une vie étudiante qui le conduit tout droit à faire encore autre chose, créer une agence de presse puis le journal Libération. À cette époque, on fait les études que les aînés nous dessinent. Et l'on change de monde, d'envie, c'est une nouvelle naissance.
Je vois mon grand-père qui me dit, j'étais tourneur sur métaux, j'ai réussi à faire de mes filles une institutrice, de l'autre une comptable qui était chef de la comptabilité d'une maison de retraite. Voilà, donc je souhaiterais qu'il devienne ingénieur.
Puis vous avez fait centrale du coup.
Oui, c'est ça. Au début, j'étais à Centrale de Lyon et puis j'avais trouvé un appartement chez une dame qui m'interdisait de recevoir qui que ce soit. Et alors, j'étais décidé à partir. Là-dessus, j'ai un coup de téléphone de l'école centrale de Paris qui me dit « Il y a une place qui s'est libérée. Est-ce que vous voulez la prendre ?» Oui, moi, je commençais à être las de cette dame qui m'empêchait de voir des copains. Et alors, je suis parti à Paris. Quand j'ai fini la préparation, mon père m'a dit « Tu n'auras pas un sou de ma part ». Donc j'ai dû me débrouiller. Au début, un poste dans la plonge, ensuite dans le service, et puis après dans la cuisine. En un mois, je gagnais assez d'argent pour me payer toute l'école centrale. L'école centrale était payante à l'époque. C'était fait pour les jeunes qui devaient reprendre le poste de leur papa. C'était tous des fils de grands industriels.
C'est à cette époque-là que vous devenez Mao. Et pourquoi Mao ?
Parce que Mao était le seul opposant à l'URSS. À ce moment-là, j'ai rencontré Krivine. Puis Krivine m'a dit, nous on faisait de l'entrisme. Alors si tu veux travailler avec nous, il faut t'inscrire au PC. Mais alors, je m'inscris au Parti communiste, et puis, une semaine après, je commence à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire des cours particuliers. Et puis, au bout d'une semaine, arrive un responsable de la section qui me dit « Mais j'ai appris que vous faisiez des cours de marxisme, mais sans nous, c'est pas possible. Il fallait demander notre permission. » Alors, j'ai dit « La permission, je ne fonctionne pas comme ça. » Donc, je continuerai à faire ce que je faisais. Et ce que je faisais, c'était distribuer le petit livre rouge de Mao. Et il me dit, c'est absolument interdit.
Et là, vous avez été chassé du PC, alors ?
Ah oui, j'étais exclu.
Puis vous avez travaillé en usine ?
Oui, 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 j'ai travaillé à Marseille, dans la réparation des cargos.
Et chez Renault ?
Après.
C'était une époque où... Peut-être les intellectuels, ce que vous étiez, voulaient se tremper dans le monde ouvrier. C'était aussi l'époque où il y avait d'ailleurs des prêtres ouvriers. Qu'est-ce que vous en tiriez ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Oh, pas grand-chose. Plutôt des problèmes.
Est-ce que ce n'est pas justement cette différence fondamentale entre l'intellectuel et l'ouvrier, entre guillemets, sur l'appréciation des tâches à faire ? Comment les faire, ne pas les discuter. Un intellectuel va discuter, va dire « Mais ouais, mais enfin, si je fais ça comme ça, peut-être que je ferai mieux. » Et en fait, vous vous faites virer à chaque fois.
Oui, oui, oui. Un jour, moi, je m'établissais pour trouver des nouveaux adeptes. Et puis un jour, j'en trouve un qui me paraissait intéressant. Et je lui dis, Et je lui dis, il faut que je te dise une chose, je ne t'ai jamais dit jusqu'avant. Je sors de centrale. Réponse, Poissy ou Melun. C'était les centrales pour les prisonniers, quoi. Voilà.
Arrivé à Paris, il y a encore un choix. Vous faites les écoles prépa, etc. Vous pouvez rentrer donc à Centrale. Mais il y a aussi Polytechnique qui se présente à vous.
Oui, mais Polytechnique, je venais d'apprendre que c'était une école militaire et qu'il fallait un uniforme. Alors là, c'était impensable pour moi. Je vais quand même passer l'oral. Et puis l'examinateur me dit, il faut me faire un plan d'une organisation. Alors je fais un plan. Et l'examinateur me dit, qu'est-ce que c'est que ce plan ? Je dis, c'est le plan de mon appartement. Alors il me dit, vous foutez de moi, dehors. Et comme ça, c'était gagné. Je ne rentrais pas à Polytechnique.
La centrale, c'est en 3 ans les études. Oui. Vous en faites 2 1/4, 2 2 et quelques, et puis vous partez.
Oui, au Mexique.
Qu'est-ce que vous allez faire au Mexique ?
Faire un truc sur l'artisanat.
En fait, c'est l'UNESCO qui portait votre idée de rapport ou de mémoire, mais l'UNESCO n'a pas voulu le publier, en fait.
Oui, parce que je disais que l'artisanat était en train de péricliter au Mexique par la faute des États-Unis.
Quand vous revenez du Mexique, ce qui est étonnant, c'est que comme vous avez tourné le dos la 3e année de Centrale, c'est votre père qui s'agite pour que vous puissiez faire malgré tout votre 3e année.
Oui. Alors mon père, j'avais pas de bon contact avec lui. C'est la seule chose que mon père a fait pour moi.
Et donc vous faites votre 3e année, vous allez jusqu'au bout.
Oui. Et puis je suis embauché à l'INSEE. Et alors un jour, mon chef vient, me dit « Mais pourquoi tu fais tous ces calculs ?» Ben je dis « C'est mon boulot. » « Mais non, mais ton boulot, c'est de donner un rapport qui satisfera nos clients. » Je dis « Moi, je ne fonctionne pas comme ça. » Et alors là, j'ai quitté immédiatement l'INSEE.
Et là, vous vous lancez dans des études d'architecte ?
Non, c'était en même temps. Et notamment, mon directeur de thèse était quelqu'un qui était en train de construire le nouveau quartier de
la Défense.
La Défense, oui.
En fait, ce travail, c'était pour la tour Nobel, c'est ça ? Celle qui est juste au pont Saint-Cloud, quoi, la première tour de la Défense, en fait.
Oui, c'est ça. Et qui me dit, je voudrais que tu fasses un système qui permette, quand on les pose, de brancher immédiatement le gaz, l'électricité et l'informatique.
Dans les planchers ?
Oui. Alors, je fais son truc. Et puis, j'en parle à des copains qui me disent « Mais il faut le déposer. » Je vais essayer de le déposer. Et je m'aperçois que mon directeur l'avait déposé avant moi.
La vie étonnante commence. Hein.
Oui.
Alors vous allez aussi, c'est ça qui est étonnant, vous rejoignez aussi l'UNEF ?
Oui, mais comme représentant des grandes écoles.
Et là vous faites une rencontre qui plus tard rebondira, il y a un autre vice-président avec vous ?
Oui, qui s'appelait Serge Julie, et qui un jour, on a une réunion de mise au point, et il dit, moi je veux faire un François Rouge. Et moi je dis, François Rouge, c'est idiot. Faut faire un journal qui appartienne à ses lecteurs.
Et là, on va vers une vie de bohème, c'est-à-dire que vous êtes à Paris, vous êtes à Centrale, vous êtes architecte, vous voyez des gens, etc., vous militez, mais vous voyez aussi d'autres personnes, vous voyez des artistes, vous voyez des auteurs. Quelle est cette espèce de nuage intellectuel que vous voyez ?
C'était une curiosité.
Ça se passait beaucoup chez Jean-Pierre Le Dantec, qui est de la Rapée.
Martine Fessel-Vernier, sa femme.
avec une bande de gars.
Qui est Jean-Pierre Le Dantec? Parce que lui, il va revenir.
Jean-Pierre Le Dantec, bah, c'est avec lui qu'il a décidé de ne pas réussir à Polytechnique. Ils se sont rencontrés à ce moment-là. Et ils sont devenus complices. Jean-Pierre Le Dantec était à la gauche prolétarienne, pas tellement dans Libération. Mais dans cette période d'étudiants, je crois qu'il animait tout une espèce de salon où venaient des gens brillants, qui avaient des tas d'idées, et qui c'était des conversations bien arrosées, paraît-il. Et ça faisait rêver, quoi.
Et quelques temps après, il y a quelqu'un qui vous appelle parce qu'il faut que vous alliez à Kaboul. Qu'est-ce que vous faites là-bas?
C'était Albert Ediato et sa femme. Et Albert me téléphone en disant « Viens nous chercher parce que sinon on se tue ». Alors, il me paye l'avion et j'arrive à Kaboul. Et c'était le moment où les Soviétiques étaient en train d'envahir l'Afghanistan.
Vous quittez Kaboul pas n'importe comment?
Non, avec une superbe voiture.
Oui, mais il faut faire Kaboul-Paris en voiture.
Oui, oui, oui. Et non seulement avec Diato et sa femme, mais aussi avec un chien afghan.
On traverse moult pays pour rentrer?
Oui, ah ben oui.
On met combien de temps?
Oh, ça a pris un mois à peu près.
Alors je reviens à Paris, c'était aux Beaux-Arts je crois, où là vous enseignez un peu l'architecture à des étudiants. Là aussi il se passe des trucs.
Mais oui, j'avais décidé que les architectes ne s'occupaient jamais des ouvriers qui travaillaient. Alors j'organise des visites pour les étudiants, visites suivies d'expositions.
Ça va pas tout seul, puisqu'on vous prolonge pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, il s'est passé que la dernière visite, c'était la tour Zamansky à Jussieu. Et je m'aperçois qu'aucun des ouvriers n'avait de protection. Ce qu'on appelle des parachutes. Voilà. Donc, j'exige de voir la protection. Et puis, alors, on fournit des protections pour tous les ouvriers, comme c'était très vieux. Les protections étaient très vieilles. Il y en a un qui le met, qui tombe et qui se tue. Alors là, on me dit, c'est fini les visites. Sinon, vous êtes licencié.
Et vous l'avez été. On est en 71, et là, vous allez à la chapelle Saint-Bernard.
Pour la grève de la faim.
Pourquoi vous faisiez cette grève de la faim?
Parce que nos camarades demandaient à être des prisonniers politiques.
Est-ce que ça a duré longtemps?
Ah oui, oui, oui. Ça a duré 2 mois à peu près.
Il y a eu des interventions pour vous déloger?
Oui, oui, oui. Il y a un jour une bande de fascistes qui nous ont attaqués. On s'est réfugiés comme on pouvait.
Après cette grève de la faim en 1971, Jean-Claude Vernier fonde l'agence de presse Libération, l'APL, qui ouvre la voie à la fondation de Libération. Tout cela est dans le premier épisode. La semaine prochaine, nous plongerons dans l'enfance de Jean-Claude, une enfance isolée, incomprise, bafouée, l'éveil à l'engagement.
Les entretiens réalisés pour cet épisode ont été enregistrés par Jean-Louis Vinet, en juin et juillet 2023. La réalisation est de Jean-Louis Vinet, avec la voix de Rose Monet et les musiques de Paz. C'est une production de l'association Journalisme et Photographie.